Ah, Pandora's Actor. Te voici enfin de retour de la mission de reconnaissance que je t'avais confiée. Es-tu prêt à me faire un rapport ?
Yavol, mein général. J'ai longuement observé, comme vous me l'aviez commandé, cette institution dénommée le Club des Petites Chatons. Mais il se trouve, mein général, que cette guilde vient tout récemment d'être dissoute. J'ai la confirmation que leur ancienne chef, la fameuse Miku, n'était en fait qu'une façade, pour un individu nommé Taroya. Ils forment un duo avec un mystérieux guerrier que l'on connaît sous le nom de Ilikus. On raconte chez les humains que la puissance de cette équipe serait égale à celle des dieux de l'ancien monde, mein général.
Merci, Pandora's Actor. Dis ce que tu dis est vrai, nous avons là un adversaire à prendre au sérieux. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Tu le dire ?
Oui, votre excellence.
Lance une mission punitive avec tes sbires pour éradiquer ce qu'il reste du club des chatons. Cet ennemi nous a posé des problèmes par le passé. Ne lui laissons pas l'opportunité de se reconstruire.
Il en sera fait selon vos ordres, votre éminence.
Cositus.
Je suis à vos ordres, monseigneur.
Je veux que Demiurge enquête sur ce dénommé Ilikus. Je veux tout savoir de lui. Ses compétences, ses exploits, ses attaches, ses points faibles. Et qu'il envoie des démons espions sur le terrain et recoupe les informations avec ce que l'on savait du club des chatons.
Je pars immédiatement sur le terrain pour lui transmettre vos ordres, votre excellence.
Bien. Albedo ?
Oui, seigneur Heinz.
Mets tout Nazarick en état d'alerte et renforce nos défenses. Personne ne doit approcher de notre tombeau à moins de 2 km sans que sa menace ait été évaluée et au besoin, promptement éradiquée.
À vos ordres, seigneur Heinz. Tous les intrus qui essaieraient de profaner ces lieux, fruits du travail des 41 créateurs, en subiront les conséquences. Moi, Albedo, régente des gardiens de Nazarick, je le jure sur l'honneur de...
Putain, on entre comme dans un moulin ici. Ah, trop facile cette quête.
Ouais bah, tant mieux hein, parce que j'ai un apéro à 16h et je déteste être en retard. Par contre, stylé la map hein. Les colonnes, les drapeaux, ouais, bon c'est un peu chargé mais c'est sympa.
Ah mais regarde Ilikus, j'ai compris pourquoi c'était si simple. Cette salle est remplie de boss, il y en a partout. Ils se sont groupés dans la salle finale. Bon, écoute, je vais te laisser cette espèce de cafard samouraï géant et moi je prends la petite soubrette à ombrelle.
Ça marche, Taro. C'est parti !
Le samouraï et la soubrette. Overlord, saison 4.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du samouraï et la soubrette. Ça faisait bien longtemps.
Alors techniquement non, on a dû uploader des trucs régulièrement.
Non, un vrai épisode et pas un chambara, c'est ça que je veux dire. Et oui. Et consacré cette fois-ci à la saison 4 de l'animé Overlord. On avait déjà consacré un épisode aux trois premières saisons d'Overlord. Et voilà, la saison 4 est parue récemment, donc on s'était dit que ce serait bien de y consacrer un épisode, sachant qu'il y avait des choses assez intéressantes dedans. Pour rappel, Overlord, donc, c'est un animé adapté du light novel de Kugane Maruyama et qui est produit par le studio Madhouse. Donc la saison 4 de la série Overlord, elle a été diffusée entre juillet et septembre 2022 au Japon et en simulcast sur ADN, donc qui sur la plateforme ADN. Sachant que les trois premières saisons ont eu lieu entre 2015 et 2018. Pour traiter cette saison, nous partons du principe que vous avez vu les trois premières saisons d'Overlord et donc nous pourrons allègrement divulgâcher. Pour le plaisir de la découverte néanmoins, nous ne spoilerons pas ce qui concerne la saison 4. Est-ce que, Jean, tu pourrais nous parler un petit peu du pitch de cette saison 4 ?
Oui. Donc, le personnage principal que l'on connaît sous le nom de Heinz Aungol est désormais à la tête du royaume sorcier dans un territoire situé entre le royaume de Riestis et l'empire de Baharut. Il semble déterminé à créer un monde où il régnera de façon juste, mais entre la volonté de ses gardiens et les nouvelles menaces, il sera peut-être amené à changer ses plans.
Oui, ça c'est clair que je pense que tout n'ira pas selon le plan prévu à la base.
Tintintin.
Voilà, donc moi je l'ai vu sur ordinateur en VF. Toi tu l'avais vu en VO.
Moi je l'ai vu sur système home cinéma personnalisé.
Ouais, d'accord, ok, ça se la pète.
En VO.
Ça se la pète. Oui, bah d'accord. Bah justement, on peut, vu que toi, tu l'as vu avec, dans de superbes conditions, eh ben, j'imagine qu'on va pouvoir parler un petit peu de la technique et de à quoi ça ressemble. Sur la partie vidéo, moi, j'ai trouvé que c'était toujours aussi chatoyant sur la gestion des couleurs et des lumières. Et puis, c'est surtout très coloré, malgré une ambiance qui est, on est assez d'accord, assez généralement plus austère que sur les,
que dans les précédentes saisons. Ouais. Oui, de plus, il y a une direction artistique qui est assez cohérente quand même avec les précédentes saisons, bah, malgré les années de décalage, hein, puisque ça fait donc quelques années qu'on n'avait pas eu de,
quatre ans,
pour Overlord.
Pendant un temps, on, avait, on s'était même dit qu'il n'y en aurait pas. Ou que,
oui, voilà, ouais. C'est ça. ce qui est pas mal du coup, parce que dans le cadre d'un, d'un revisionnage intégral, ça évitera de ressentir une grosse différence de direction artistique d'une saison à l'autre. Par contre, petit reproche que j'ai à faire moi pour cette quatrième saison, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait, alors c'est lié au fait peut-être qu'il y a moins de combats, sans spoiler, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de scènes impressionnantes.
Ouais, je suis d'accord, sachant que pour, sachant que oui, il y a quelques combats ou un contre un. Quelques combats armés contre armés, et le problème c'est que ben, c'est assez compliqué, notamment pour les combats d'envergure avec des armées, à cause notamment du gros recours à une CGI moche. Alors bon, on n'est pas sur le point Godwin absolu de l'armée gobelin de la saison 3, ceux qui savent savent. Hein. Ah, voilà, ouais, c'est horrible, mais globalement on va se contenter de dire que c'est vraiment pas ouf, mais je vais rester positif, hein. Je vais plutôt saluer la progression plutôt qu'enfoncer le résultat global, vu que bon, on est passé par pire sur cette même série de toute façon,
oui,
d'ailleurs.
Oui, oui, clairement.
Sur la partie audio, pour le coup, je n'ai pas remarqué de musique d'ambiance à l'intérieur des à l'intérieur des épisodes différentes. C'est vraiment une reprise de musique d'ambiance et de thèmes musicaux qu'il y avait déjà auparavant.
Ouais.
Par contre, ce qui change, évidemment, ce sont les génériques de début et de fin. Le générique de la saison 4, pour une fois, est sans autotune. Et ça change, toujours par le groupe OXT qui avait signé les openings des saisons 1 et 2, ainsi que l'ending de la saison 3. Plus surprenant, le thème de fin par Maeshima Mayu, dans un style beaucoup plus occidental. Un rock très lyrique entre Paramore et Evanescence, donc plus des références occidentales et américaines. Il me semble que toi aussi, tu as apprécié cet ending, Jean.
Oui, ouais, ouais, je l'ai apprécié. Et moi, à l'écouter, il m'a un peu rappelé quelques souvenirs de ReZero. Et puis là, on se dit, tiens, c'est la première saison sans un morceau de Myth and Roid. Et pourquoi ? Et puis, on se renseigne un petit peu et puis on se rend compte que le groupe s'est séparé en 2019. Et puis là, on se dit, mais c'est pas possible, on les a entendus plus récemment. Et c'est vrai qu'en fait, on a entendu des pistes de ce groupe plus récemment dans le milieu de l'animation japonaise, avec notamment l'ending de la saison 2 de Made in Abyss, dont on avait parlé l'été dernier.
Et on vous conseille de réécouter cet épisode, cet excellent épisode, évidemment.
Oui, évidemment. Après avoir vu la saison 2, et du coup, après avoir vu la saison 1, peut-être.
Voilà, et après avoir vu le film. Bon, on parle pas de... Arrêtez,
et
monsieur.
Donc, du coup, comme tu l'as dit, la chanteuse, c'est Maeshima Mayu,
oui.
Qui est peu reconnaissable à la base sans les effets lourds de vocodeur qui étaient caractéristiques de ce groupe.
Voilà, donc on a quand même une continuité vocale entre
oui.
Les anciennes saisons et cet ending.
Ils sont très très forts. Continuité dans les effets de CGI moche et dans les interprètes à la musique.
Oui, comme quoi, voilà, on peut pas dire que ça, c'est ça. C'est la continuité dans le changement.
Oh, le slogan pourri.
Ah, ouh là là. Ça, bon, je sens qu'on va l'avoir en prochaine élection. Il est trop pourri pour pas être utilisé. Au niveau de la narration. Je te laisse en parler.
Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé cette saison 4 quand même assez bavarde avec... bon, bah, il y a beaucoup de complots et d'intrigues politiques qui sont clairement au premier plan. C'est habituel avec cet animé. Donc, bah, si vous êtes familier de la série, ça vous choquera pas. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que... comme il y a eu tout un build-up, une construction, les personnages ont été présentés, les enjeux ont été présentés, les échelles de pouvoir ont déjà été illustrées, etc., etc. Bah là, ils se sont dit, bon, bah ok, bah maintenant on peut faire du blabla. Donc ça ne m'a pas déplu, loin de là, mais
peut-être que c'est partiellement la cause du fait qu'il y a moins de scènes un petit peu impressionnantes.
Mais complètement, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment penser à une autre série qui s'appelle Log Horizon, qui est également un isekai, mais qui est beaucoup plus tourné sur les intrigues politiques, les équilibres de pouvoir entre les différentes factions, beaucoup plus que sur l'action en elle-même et qui a pu surprendre. Et pour le coup, la Overlord essayait toujours d'avoir des morceaux de bravoure avec toujours, disons, des intrigues aussi, des intrigues sur comment le plan général de l'Overlord.
Oui, genre des lézards qui font l'amour avant une bataille.
Exactement, des scènes mémorables, exactement. Voilà. Et que là, c'est vrai qu'on est moins sur des scènes mémorables, beaucoup plus sur des plans de bataille avec des. Voilà. Avec un peu moins d'épisodes vraiment.
Moins d'action, quoi.
Ouais.
Ouais. Et puis aussi, du coup, on a. Enfin, j'ai envie de dire, le retour de certains personnages qui avaient l'air d'être très importants pour l'intrigue et qu'on nous a montré très succinctement en tout début de saison 2 quand même et qui ne réapparaissent pas jusqu'à ce qu'on les revoie dans cette saison 4. Et là, j'ai envie de dire, vu que, bon, sans spoiler, c'est quand même plutôt vers la fin de la saison, tu te dis,
ouais.
Merde, il s'est quand même écoulé presque 3 saisons.
Ouais.
Et puis on les voit pas beaucoup quand même.
C'est ça. Disons que ce qu'il a espéré évidemment, c'est qu'il soit au centre des saisons à venir.
Mmh.
Et disons que c'est quelque chose. C'est une hypothèse qui me paraît d'autant plus probable que cette saison 3 signe la fin d'un arc. Cette saison 4 signe la fin d'un arc vraiment important qui signe manions l'euphémisme. Un bouleversement pour un paquet de personnages du royaume de Rhaestys. Sachant que ce sont des personnages qu'on suivait pour la plupart depuis quasiment le début de la saison. Et avec, en tout cas, une fin d'arc. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec le mot satisfaisant, mais je pense que tu seras forcément d'accord.
Pas trop avec le mot satisfaisant.
Mais je pense que tu seras d'accord avec le mot définitif pour certains.
Oui.
une fantaisie narrative dans cette saison 4 sachant qu'Overlord est une série qui est plutôt très linéaire dans sa narration habituellement. Il y a la succession en fait de deux épisodes où on va raconter l'histoire du point de vue de deux personnages différents. On va suivre pendant un épisode les faits et gestes de l'empereur de Baharut, Jerkniv, qui va rencontrer à la fin de l'épisode Isengol. Et plutôt que de raconter directement la suite, on va raconter comment Isengol s'est retrouvé exactement au même endroit.
Oui.
Et ce qui est assez intéressant d'un point de vue de l'intrigue, vu que les deux vont y être pour des raisons différentes et les deux vont en tirer des conclusions différentes aussi. Et c'est assez intéressant.
Donc ça y est, toi aussi, tu es devenu une petite biatch pour la narration non linéaire.
Oui, mais bon, tant qu'ils mettent pas de l'intrigue temporelle, moi ça me va.
Ok. Il y a un petit truc aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans les saisons précédentes. Par moment, le seigneur Hines, lors de ses interactions avec les gardiens, a des réactions. Alors, des fois, ce sont des comme ça dans sa voix intérieure, où lui, en tant que humain joueur, réagit à ce qui est en train de se passer lorsqu'il est dépassé ou surpris par les événements.
Ce qui lui arrive souvent dans cette saison 4.
Voilà, c'est ça. Et aussi les fameux moments où il est en mode oh, et puis il y a un petit sort lumineux vert qui le calme. Et puis,
Notamment lors, comment dire, des épanchements très prononcés d'albédo.
Voilà. Et donc, bon, ça, je trouvais ça déjà pas. C'était original et c'était plutôt sympa dans les saisons précédentes. Et c'est vrai que là, ça revient pas mal. Et j'ai trouvé que c'était, ouais, franchement, le timing, l'humour est bien maîtrisé, ça m'a bien fait rire. En fait, tous ces passages m'ont paru plutôt drôles.
Oui, c'est vrai que c'était plutôt cool. Autant il y a des choses où, disons que moi j'aime bien les Pléiades et il n'y a pas trop de Pléiades dans cette saison 4.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le retour des discussions entre gardiens et des interactions entre Isengol et ses gardiens. Et effectivement, c'est toujours aussi divertissant.
Yes.
Ça, ben, on en a. Je pense qu'on a tout dit au niveau de la narration. On peut passer aux différentes thématiques qui ont été abordées lors de cette saison 4. Une des choses les plus intéressantes pour moi dans cette saison 4, en fait, c'est maintenant en fait que Isengol est à son royaume sorcier, qu'il est en plein jour et que on va dire tout le monde connaît sa puissance. En fait, ça va être vraiment la réaction des PNJ, ou en tout cas surtout des gens qui ont du pouvoir dans ce nouveau monde.
Oui.
Face à une puissance incommensurable, parce que Overlord, il est pas fort. c'est une autre dimension, quoi.
Oui,
par
il
rapport
est,
aux
il
humains.
Est absurdement surpuissant.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas. Oh là là, dis donc, Kirito est vachement fort.
Oui,
par
oui.
Par... Non.
Ben, on l'a déjà vu dans les saisons précédentes, du
ouais,
coup,
ouais.
Notamment la saison 3. Mm-hmm. Lui seul est capable d'anéantir une population de nations.
Oui,
fait.
Voilà. C'est ça. Et en fait, face à cette menace révélée, parce que c'était la fin de la saison 2, si je dis pas de bêtises, l'anéantissement des...
Non, c'est la fin de la saison 3, non ?
Non, les moutons, oui, c'est vrai. les moutons, c'est la fin de la saison 3. Non, oui. C'est la fin de la saison 3 et c'est l'exemple montré au monde de voilà, je suis surpuissant.
Oui, parce
et...
que la fin de la saison 2, me semble-t-il, c'est l'annexion des lézards.
Oui, il me semble que c'est ça.
Ouais.
Il y a soit ça, soit un truc au village de Carnet aussi. Voilà.
Possible.
Mais oui, en fait, ce qui va être intéressant, c'est les gens de pouvoir, typiquement les familles royales, typiquement l'empereur aussi, l'empereur de Barut, Jerkniv, ou même le Saint-Empire, l'état-major de l'Empire de Slane. Tout ça, en fait, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça ? Parce que c'est une crise qu'ils n'ont jamais connue, mais apparemment qui est déjà arrivée. qui apparemment est déjà arrivé dans un lointain passé et ça va être c'est très intéressant de voir en fait comment vont réagir tous ces personnages là, que ça soit par des revirements spectaculaires de personnalité, que ce soit par de la pure paranoïa, que ce soit en fait en se refermant encore plus sur eux-mêmes, ou en essayant d'ouvrir des portes, pour le coup des portes narratives pour nous, ou avec des pouvoirs qu'on ne soupçonnait pas dans ce monde là pour l'instant. Autre chose aussi, c'est que la puissance incommensurable de Isengol, elle provient aussi du fait qu'il est arrivé dans un monde qui lui est censé être inconnu, et avec déjà cette puissance qui lui était donnée, et lui il va pourtant essayer d'avoir une volonté pacifique, ou en tout cas essayer d'être un souverain juste, mais il va y avoir une opposition entre cette volonté là et finalement ce à quoi ces sujets ont toujours été habitués, c'est-à-dire à un mouvement inexorable vers la conquête impitoyable du monde. Et il doit composer aussi avec le fait que ces sujets méprisent les humains, que pour eux la volonté de leur créateur, c'est de conquérir le monde, et peu importe s'il faut faire des dégâts. Bizarrement, en fait, en essayant de ménager du coup sa volonté et celle de ses sujets, on verra, c'est quelque chose qui va le tirailler pendant vraiment toute la saison.
Mmh.
Et puis bon, il y a toujours cette continuité par rapport aux saisons précédentes. C'est une série qui n'a pas vraiment de boussole morale qui va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est plutôt à toi, spectateur, de te dire ah ben c'est marrant, parce que dans cette discussion je me disais que oui, effectivement c'est plutôt logique qu'ils en arrivent à cette conclusion là, mais quand je vois les conséquences que ça a, ouf.
Ouais, dans cette saison, je trouve que c'est pas trop difficile de se rendre compte de ce qui est bien et mal. Hein.
Non, bah non, bah
ouais, non.
Ça paraissait logique.
Ouais.
La carotte et le bâton, tu connais pas.
Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est on arrive à des thématiques de difficultés d'exercice du pouvoir,
mm-hmm.
avec d'une part des bonnes intentions qui mènent à des atrocités, et aussi comme tu le dis, la réaction des monarques qui se retrouvent face à un mur, en fait, une situation où de toute façon il n'y a pas de bonne issue. On en a discuté un petit peu déjà, pas devant les micros, mais à côté. Ça donne des interprétations possibles de l'inhumanité grandissante de Hines, qui, dans cette saison, semble vraiment venir au premier plan, quoi. Il semble vraiment y avoir une transformation du personnage progressivement.
Disons que effectivement il y a une disons que jusqu'à présent on le voyait de temps en temps commettre des actes de cruauté, mais c'était soit en tant que chef de Nazarick ou sur un moment donné, c'est-à-dire par exemple je repense à l'arène où il se retrouve face à quatre aventuriers, il est dézingue, mm-hmm. mais entre guillemets c'est un combat.
Voilà, il y a un combat à la loyale.
C'est
quoi,
un combat à la loyale. D'autre part, ou sinon ça va être sur une action, sur un instant ou sur une décision où il va dire tiens ça je vais le faire et ça va créer plein de morts, bon tant pis. Par contre, disons, sur cette saison, il va faire des choses, il va avoir des plans vraiment détaillés qui vont amener la mort et la destruction de beaucoup de gens, et pas sur un instant, et pas sur un jour.
Oui, disons que c'est
la
même chose que dans les saisons précédentes, mais avec préméditation et une certaine continuité.
Façon planifiée ouais. Et réfléchie. Donc, on n'est plus du tout sur, cet acte-là, disons, c'est pas cool. C'est plutôt, ah oui, on est sur un plan vraiment où c'est le mal incarné.
Ouais. Du coup c'est bien, ça nous fait une petite transition vers la section des personnages, donc voilà, peut-être une petite transformation progressive du comportement, en tout cas de l'alignement moral du personnage.
En placer peut-être une toute petite sur les gardiens, où il y a des petites graines de potentiel doute, pas fort hein, sur la compétence réelle de l'Overlord par rapport à celle des gardiens.
Oui.
Alors ils sont toujours en adoration. Ils dispensent, c'est le créateur, c'est celui à qui ils doivent la vie, etc. Mais ils se posent des fois de plus en plus de questions et de façon de plus en plus ouverte, sans jamais remettre en cause l'autorité. Mais quand même, il y a quand même, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette saison 4.
On peut rajouter aussi le point le plus important sur les personnages, c'est il y a un homme lapin soubrette, mais c'est pas de son moche, voilà.
C'est
dommage.
Oui, c'est vrai que c'était très important.
Et papa, il va arriver quoi à Climb ?
Climb, comment te dire ça gentiment ? Eh ben, il va lui arriver des choses dont il a toujours rêvé. Et d'autres dont il avait vraiment pas rêvé.
D'accord.
Voilà.
Rendez-vous sur Rule 34 pour voir ce que les internautes commencent déjà à imaginer de son futur.
Horrible.
Allez, vas-y. Parle-nous-en de la
Captain VF. Donc oui, je n'ai pas vu la VO, mais par contre, je trouve que la VF est passée de correcte à bonne. Notamment parce que sur les premières saisons, mon souci c'était les rôles secondaires qui avaient un peu du mal et qui étaient assez inégaux. Je trouve qu'ils se tiennent bien mieux et pourtant des rôles de secondaires, on a une petite pelletée. Sachant qu'il y a moins de combats, et ben ça discute plus, donc ça s'entend plus. Mais je pense que justement ces 4 ans entre la saison 3 et la saison 4 ont permis, je pense, d'affiner au directeur artistique qui restait le même pour le coup. Alors que sur les 3 premières, je pense qu'il avait fait un peu une traite. Les acteurs récurrents, en fait, ils ont vraiment bien compris leur personnage et tu sens qu'ils ont vraiment plaisir à les reprendre. Je pensais notamment à l'Overlord, la voix de l'Overlord qui fonctionne toujours aussi bien. Malheureusement, moins de Philippe Catoire parce que moins de Sébastien.
Oui, c'est vrai.
Mais un Vincent Ropion dans Demi-Urge qui est toujours excellent. Et ça fait plaisir. Jerk Neve, qui est parfait aussi dans un registre pas évident, vu que c'est censé être... Jerk Neve, c'est censé être genre un méchant, puissant, mais qui est dépassé, quoi.
Oh, c'est une victime.
Ouais, mais il n'est pas né victime, c'est ça le truc.
Ah oui, il découvre le concept.
C'est ça, et je trouve que pour le coup, c'était assez intéressant.
Ouais, je suis
à
assez
jouer.
D'accord.
Et c'était pas mal. Des voix féminines, certaines qui sont toujours bien. Valérie Bachère se régale sur Albedo, on va pas se mentir.
Oui, moi je glisse une petite note, petite pensée pour du coup l'interprète de Clémentine qui me manque toujours autant.
Eh ben, elle est là. Elle a un petit rôle.
Ah, ok, d'accord.
Oui, Bérangère Rochet, elle est là sur le rôle de l'accuse, donc la chef de la Rose Bleue. Donc elle a un, c'est un petit rôle, vocalement
un petit rôle.
Et surtout un rôle vocalement beaucoup plus sage que celui de Clémentine.
Ah, dommage, dommage. Tu vois, j'aurais bien fait une petite incursion VF, mais bon, tant pis.
Voilà. Évidemment, je ne peux pas parler de VF sans la personne qui tient le rôle d'Evilaï.
Ah là 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 là.
Vu que c'est Caroline Combe. Caroline Combe qui est...
Caroline comment ?
Caroline Combe, c'est la personne qui est parfaite.
Jamais entendu parler.
Oui, et ben écoute, j'en reparlerai dans toutes les autres fois qu'on parlera de VF alors dans ce cas-là.
Allez, si tu veux.
Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je me suis plutôt retenu.
Oui.
Donc voilà.
Ne vous inquiétez pas, il a une injonction d'éloignement. Hein.
Donc voilà, non, bref, une VF plutôt correcte. Et puis pour le coup, ça fait toujours plaisir quand malgré pour le coup une coupure. T'as une sorte de continuité qui est assurée et par le directeur artistique et par justement le casting. Et donc ça fait toujours plaisir.
Eh ben très bien. Bah, c'est peut-être le temps de conclure du coup.
Et oui.
Qu'est-ce qu'on peut conclure ? Peut-être que sans spoiler, bon, il y aura une saison 5 ou alors on restera sur notre fin.
En tout cas, voilà.
Vous attendez pas à ce que cette saison 4 vous... Disons que vous allez apprendre des choses. Mais ne vous attendez pas à une conclusion.
Voilà. Il n'y a pas de gigantesque bouleversement, mais il y a une vraie avancée dans l'intrigue pour
oui.
moi.
Oui, ça avance. Après, il y a quand même des éléments, on s'y attendait un petit peu. C'est peut-être encore un peu maigre. Peut-être que j'en aurais voulu plus quand même.
Disons qu'on a tellement été habitué à ce que la série mette de vrais défis face. À l'Overlord que disons que ça arrive un petit peu tard. Il y a du vrai défi, certes, ça arrive un peu tard parce que pendant tout le début, honnêtement, c'est promenade.
Ouais, et puis ça dure pas très longtemps, quoi.
Ouais, voilà, c'est promenade. Mais là, disons qu'il y a quand même des graines pour avoir quelque chose de vraiment très, très sympathique en termes d'opposition sur la prochaine saison. Donc,
ouais, et donc on va nourrir des attentes.
Oui, on va nourrir des attentes en attendant de nourrir des moutons.
Très bien. Et bah du coup, c'est ainsi que nous mettons fin à cet épisode sur la saison 4 d'Overlord. Vous pouvez nous retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes qui sont référencées sur la page pour retrouver les plateformes du podcast. Et on va bien sûr vous laisser un petit extrait VF puisqu'il y en a une.
À bientôt.
Bisous. Non, pas bisous. Gifle.